tel que promis. Il est avec nous, vous le connaissez sans doute très bien, François Allard, qui a été pendant longtemps entraîneur des gardiens de but un peu partout, entre autres évidemment ici avec le Canadien de Montréal et bien sûr avec un certain Patrick Roy. Et on l'a avec nous, François Allard, bienvenue à l'émission.
Bonjour, ça va bien?
Ben oui, ça va très bien toi-même.
Très bien.
On parle, François, ce matin, beaucoup des gardiens québécois et de l'absence, plutôt, des gardiens québécois. On sortait les chiffres là, rapidement. Au début des années 2000, là, c'était à peu près 25 % des gardiens de la Ligue nationale de hockey qui étaient des gardiens québécois. Et l'an passé, la saison passée, on a seulement 6 gardiens qui ont disputé au moins un match des Québécois, et là-dedans, il y a seulement Samuel Montembeault, vraiment, là, avec le Canadien, qui a été un gardien de but numéro 1. C'est une baisse assez drastique, François Allaire. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça?
Le hockey est rendu démocratique un peu partout sur la planète, alors qu'à l'époque, moi je me rappelle, je travaillais avec la plupart des gardiens de but québécois à l'époque. Dans ce temps-là, il y avait deux marchés. Il y avait le marché canadien et le marché québécois, on peut dire. Au niveau des gardiens de but, il n'y avait presque pas d'Américains. Il y avait rarement un Européen. Donc, les équipes pigeaient dans ces deux marchés-là. Puis, je pense qu'au Québec, on était un petit peu en avant au niveau technique. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de nos athlètes qui ont parvenu à atteindre la ligne nationale. Alors que maintenant... je veux dire, en Europe, ils ont développé beaucoup d'expertise au niveau coaching. Ils ont des athlètes, ils ont des bons athlètes, aussi bons que nous autres. Mais par contre, ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que les règlements avantagent beaucoup plus les Européens et les Américains que les Canadiens. Donc, au niveau des règlements, juste par exemple, quand tu repêches un gardien de but canadien, t'as seulement ou québécois, tu as seulement droit à 2 ans d'observation avant de le signer, alors que tu repêches un gardien de but européen, tu as 4 ans, ou un gardien de but américain, tu as 4 ans. Donc, la plupart des équipes, quand il y a deux individus qui sont à peu près similaires à 17 ans, vont opter pour un gardien de but qui ont 4 ans à évoluer. Et en plus, en Europe, ce qui se passe, c'est que le gardien de but a la chance, après son junior, d'aller jouer dans la deuxième division, puis peut-être dans la première division. Donc là, il continue son hockey, alors que nous, après 2 ans, si t'as pas un contrat, t'as plus d'option. T'as plus d'option, donc le jeune à 19 ans, il est dans une impasse, et l'équipe aussi, ils ont 2 ans pour l'évaluer, puis là, la plupart du temps, ils vont dire, on le laisse tomber. Donc ça a amené la situation actuelle, où est-ce que nos athlètes, nos jeunes gardiens de but québécois n'ont pas la chance de continuer étant donné les règlements en vigueur en ce moment.
Est-ce que ça a été soulevé, c'est un petit peu cette injustice-là au chapitre du règlement? Je pense qu'on en a parlé déjà, mais est-ce qu'on tente un peu de faire de modifier ça?
Oui, la modification va se faire non pas l'an prochain, mais l'année suivante, avec la nouvelle convention collective, où là, il y a eu 2 changements qui sont très importants qui sont arrivés. Celle-là, où ce que je te parle, qu'en 2027, là, quand tu vas repêcher un gardien de but québécois ou canadien, tu vas avoir 4 ans pour l'évaluer. Et l'autre chose qui est arrivée, puis que je pense que là, ça va vraiment aider les gardiens de but du Québec, c'est que maintenant, les gardiens de but qui vont dans le junior majeur ont le droit de continuer dans la NCAA, les collèges américains. Donc là, ça va rajouter un 4 ans à leur carrière, et à ce moment-là, on va voir qu'à ce moment-là, les équipes vont dire, je vais repêcher un gardien québécois parce que je sais que j'ai 4 ans pour l'évaluer. Puis en plus, il y a l'alternative, c'est qu'après son junior, il peut continuer à jouer encore 4 ans au niveau collégial pour continuer son apprentissage. Donc ça, c'est 2 nouvelles qui sont excellentes pour les gardiens de but québécois. Et là, enfin, on va avoir le même temps de développement que les autres pays. Et je pense que là, ça va faire boule de neige et que là, on va commencer à avoir des athlètes qui vont être repêchés et des athlètes qui vont avoir des chances d'être signés au niveau professionnel.
Oui, donc ça, c'est la convention collective, on le rappelle, là, qui va entrer en vigueur, pas la saison qui s'en vient, donc la suivante. Donc à ce moment-là, oui, donc on pourrait peut-être voir des changements à ce moment-là.
Déjà, cette année, ça a été une excellente année au niveau de le repêchage, au niveau des gardiens de but québécois. Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été repêchés. Puis je pense que les gens au niveau hockey commençaient déjà à entrevoir cette possibilité-là. Il y a ceux qui étaient, les dirigeants étaient déjà au courant qu'il y avait la possibilité. Déjà, c'était annoncé que le NCAA, les collèges américains, étaient disponibles. Puis en plus, je pense qu'il y avait des pourparlers au niveau de la nouvelle convention collective. Donc là, on a vu là que cette année, il y a eu 4 ou 5 gardiens de but québécois qui ont été repêchés. Donc déjà, là, on commence à voir un changement au niveau de la perception des dirigeants des équipes professionnelles envers les gardiens de but québécois et canadiens.
Est-ce que, François Allaire, c'est possible de voir un jour où, je parlais là, du 25% là, au début des années 2000, où 25% des gardiens de la Ligue étaient des gardiens québécois, est-ce qu'un jour on peut imaginer se ramener à un pourcentage à peu près similaire là, parmi les gardiens? Est-ce que ça serait envisageable?
Écoute, on ne peut pas dire que c'est pas possible. Tout est possible. On ne connaît pas le futur. Par contre, il faut regarder maintenant la situation actuelle au niveau du hockey international. C'est que le Québec, a une population de 2 millions. Et là, avant, il n'y avait pas de gardiens russes. Les Russes sont 150 millions. Il n'y avait pas de gardiens américains. Les Américains sont 324 millions. Les Européens, dans l'ensemble, on regarde tous les pays qui sont producteurs de joueurs de hockey, la Suède, la Finlande, la Tchécoslovaquie, la Suisse, etc., etc. Un autre bassin de 100 millions. Tu vois là que là, le hockey est diversifié, puis il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes, beaucoup plus qu'avant. Mm. Avant, on avait le Québec qui était, moi je dis, on était peut-être 7 millions, puis le Canada qui était 20 millions. Et c'est à peu près ça, là, on pigeait dans ces deux bassins-là. Donc, avec une trentaine de millions de personnes, on faisait des athlètes qui arrivaient dans la Ligue nationale. Mais là, on parle d'un marché qui est énorme. Il y a beaucoup d'athlètes en Russie, il y a beaucoup d'athlètes en Europe, il y a beaucoup d'athlètes aux États-Unis. Alors que nous, on a progressé humblement de 8 millions en 1 million. Donc, tu vois la différence au niveau des marchés, là, c'est un autre monde.
Ouais. Et on avait à l'émission tout à l'heure Stéphane Fizet là, qui nous expliquait aussi il y a eu un problème peut-être de taille. Là. Ce qu'il disait, c'est que on a eu plusieurs bons gardiens québécois récemment dans les dernières années qui mesuraient peut-être 6 pieds. Et là, ben, les recruteurs, les équipes de la Ligue nationale de hockey ne veulent même pas regarder ces gars-là parce qu'ils ne sont pas assez grands à leurs yeux. Est-ce que ça aussi, ça a été un facteur pour expliquer ce qui se passe?
Ça, c'est un facteur parce que, comme je te dis, le bassin d'athlètes est beaucoup plus vaste. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des gardiens de but avec des grandeurs qui sont beaucoup plus importantes qu'avant. Sur le lot d'athlètes qui se présentent comme gardiens de but sur la planète, c'est sûr qu'il va en avoir qui vont avoir 6 pieds 6, 6 pieds 7, 6 pieds 8. Donc, entre deux athlètes, il y en a un qui a 6 pieds, puis il y en a un qui a 6 pieds 8. À temps égal, c'est sûr que les équipes vont regarder là, au niveau de la grandeur. Mm. Un des problèmes que moi je retrouve ici au Québec, c'est que qu'on retrouve pas en Europe, c'est qu'ici, dès que tu commences à être gardien de but en double lettre, admettons Atom 2A, Pee-wee 2A, Bantam 2A, souvent c'est des petits gardiens qui sont très rapides, qui sont très coordonnés. Et les grands gardiens qui sont moins coordonnés s'en vont dans le 2B ou dans le 2C et ils n'ont jamais la chance de revenir dans le système du 2A ou compétitif. C'est ces petits gardiens-là qui sont très bons, très jeunes, gardent leur position jusqu'au midget 3A. Une fois que tu es dans le midget 3A, ben là, c'est la porte d'entrée pour le junior majeur. Mais les grands gardiens de but qui arrivent à maturité peut-être plus tard, vers 14, 15, 16 ans, ils n'ont jamais la chance de performer au niveau compétitif. Et à ce moment-là, ce qui crée, c'est qu'en Europe, tu peux avoir la possibilité de revenir dans le système compétitif à 14, 15, 16 ans. Et là, il y a des grands gardiens de but. C'est bizarre à dire, mais les grands gardiens de but sont en Europe présentement. Mm. À cause de ça, c'est qu'ils peuvent revenir dans le système. Et là, à 14-15 ans, ils deviennent plus plus coordonnés, sont mieux, ils ont beaucoup d'encadrement. Là-bas, en Europe, il y a beaucoup de... En ce temps, tu regardes, il y a des équipes là, qui ont un ou deux entraîneurs de gardien de but à temps plein. Alors qu'ici, c'est plutôt sur une base de bénévolat jusqu'à midget 3. Mm. Donc, à ce moment-là, il y a une différence là, qui se fait. Au niveau de la grandeur, c'est là qu'on... Nos gardiens de but québécois, la plupart du temps, les plus grands gardiens de but ont peu de chance. Espérons que le niveau scolaire va pouvoir être performant puis développer ces grands gabarits-là.
Parce que ça, ce que vous expliquez, par exemple, là, d'un gardien qui passerait dans deux lettres, dans le A, qui est pas capable, après ça, qui tombe dans le B, pas capable de remonter dans le A, c'est tout simplement une question de structure trop rigide? C'est un peu ça qu'on comprend?
C'est que une fois que tu as ton boulot, on peut dire, dans le 2A, d'année en année, on dirait que t'es déjà... C'est toi qui es le suivant. Il n'y a pas de bataille qui se fait au camp d'entraînement. Mm. Si tu as été 2A, si tu as commencé dans le 2A, on dirait que automatiquement dans le PIWI, tu vas être 2A, puis dans le Bantam, tu vas être 2A. On dirait qu'il n'y a plus de compétition une fois que c'est fait. Alors que dans différentes organisations, ils vont donner la chance. En Europe, en tout cas, je vois des gars qui arrivent de nulle part, que tout à coup, ils deviennent des gardiens de but à 15-16 ans, alors qu'ici, à 15-16 ans, il n'y a pas de surprise. Tu connais déjà les gardiens de but dans les organisations qui sont là depuis 5-6 ans, déjà dans le 2A. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Alors qu'en Europe, tout à coup, il y a un jeune qui arrive à 15 ans, puis il dit, bon, ben, il n'est pas si mal, il commence à être coordonné, ils vont lui donner une chance, ils vont le remettre en action dans le système compétitif. Et des fois, il va faire l'équipe. Ça cause des surprises. Alors que ici, je sens qu'il y a moins de possibilités pour les jeunes de réintégrer le système compétitif.
C'est comme si c'était prédéterminé, finalement.
Ouais, on dirait que quand ça débute dans la tombe, en tombe 2A, on dirait que tu restes là pour t'es planifié pour être là. Souvent, c'est, l'organisation est rigide, ils ont leurs joueurs, ils savent avec qui ils s'en vont, ils vont faire confiance aux mêmes joueurs d'année en année.
Ouais, et je suis sûr qu'il y a plusieurs parents qui nous écoutent présentement, François Allaire, puis qui comprennent parfaitement cette situation-là, qui ont déjà vécu ça, puis effectivement, ça serait à changer, mais évidemment, comment on change ça?
Là, ici, au Québec, là, on a la chance là, de revoir le système scolaire qui se développe petit à petit, où là, on commence à avoir des gardiens de but qui ont la possibilité de jouer au niveau scolaire, qui commencent à avoir des tournois, qui commencent à avoir des choses. Je pense que les deux peuvent se compléter, mais c'est sûr que les tournois au niveau régional et provincial, c'est pas dans le scolaire que ça se fait. Et à ce moment-là, ils ont une compétition qui est beaucoup plus intensive, on peut dire, qui développe plus d'athlètes que dans le niveau scolaire. Mais le niveau scolaire fait des pas de géant présentement.
Et François Allaire, avant de se quitter, faut parler un petit peu de on entendait, puis Stéphane Fizet disait tout à l'heure que vous avez pratiquement inventé un style, là, ce qu'on voit présentement beaucoup dans la Ligue nationale de hockey, le style papillon avec Patrick Roy, ça a été perfectionné ici à Montréal, ça a donné des résultats. Est-ce que c'est vrai de dire ça comme ça quand vous voyez encore les gardiens aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey, peu importe les nationalités, un style qui est un peu similaire, est-ce que ça remonte à ce que Patrick Roy a introduit de quelque manière avec vous?
Ben, écoute, c'est sûr que nous, on a popularisé un mouvement qui s'appelait le mouvement papillon, mais qui existait déjà, mais qui n'était pas utilisé dans toutes les situations de match. Nous, on l'a vraiment démocratisé dans le sens que on l'a appliqué à plusieurs situations. Ça fait qu'au niveau médiatique, les gens ont dit le style papillon, mais dans le fond, c'est un mouvement qu'on utilisait plus que d'autres. C'est sûr que moi, quand à l'époque je me déplaçais dans différents pays, j'étais invité dans différents pays, on voyait qu'il y avait toutes sortes de façons de garder les buts. Chaque gardien de but avait presque un style à lui seul. Alors que là, on peut voir là, qu'il y a une certaine une certaine tangente vers l'utilisation du mouvement papillon de plus en plus dans tous les pays. Donc, c'est sûr que on peut dire qu'il y a eu un certain départ au niveau du Québec puis Patrick était gardien de but numéro un très jeune dans sa carrière. Il a eu du succès très jeune dans sa carrière. C'est sûr que ça a poussé plusieurs gardiens de but québécois à tenter de l'imiter. Puis à ce moment-là, ben, ça a fait boule de neige. À un moment donné, moi, je me promenais dans différents pays, puis tout le monde voulait jouer comme les gardiens de but québécois. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est sûr que c'est une boule de neige qui va de plus en plus rapidement, plus en plus grosse. Puis là, on voit que à peu près tout le monde joue de la même façon.
Et est-ce que c'est ça que ça prend, justement, pour revenir à notre point de départ? On parle des gardiens québécois, on a parlé du système, mais d'avoir un genre de Patrick Roy au haut de la pyramide qui mène l'exemple, qui est un exemple à suivre, est-ce que c'est le genre de choses qui est nécessaire à peut-être un retour en force là, des gardiens de but québécois sur les glaces?
Ah, c'est sûr que, tu sais, qu'on le veuille ou pas, là, Montembeau, il fait quelque chose d'extraordinaire pour les Canadiens. C'est un Québécois qui est numéro un, qui joue très bien. Je veux dire, son équipe est pas la plus forte dans la Ligue nationale, mais il apporte des victoires à lui tout seul. C'est un des gardiens de but les plus performants pour les buts sauvés dans la Ligue nationale. Donc, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui le regardent. Évidemment, Patrick, à l'époque, avait une équipe gagnante, en sens qu'on faisait les séries chaque année. Donc, et en plus, il y avait du succès au niveau statistique. Il était à la télévision chaque soir. Dans ce temps-là, la télévision était beaucoup regardée. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ont prêté attention à ce qu'ils faisaient. C'est sûr que présentement, Montembeau donne l'exemple.
Oui.
Donc, oui, probablement qu'il va y avoir des jeunes qui vont être intéressés à la position. Il va y avoir des jeunes qui vont être intéressés à performer et à essayer de se développer dans ce niveau-là.
Oui, et puis c'est intéressant ce que vous dites sur Samuel Montembeau, parce que les équipes ici récemment, bon, le club a fait les séries, évidemment, en avril, mais avant ça, c'était beaucoup plus difficile. Samuel Montembeau, certains soirs, était beaucoup laissé à lui-même, et malgré tout, vous l'avez mentionné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gardien de but élite, Samuel Montembeau?
Oui, moi, je pense que présentement, il a sa place. Là. C'est pas le pire gardien de but numéro un dans la Ligue nationale. Là. C'est un des bons gardiens de but numéro un dans la Ligue nationale. S'il jouerait pour certaines équipes dans la Ligue nationale, je donnerais pas de nom. Il serait sûrement encore plus performant. Mais là, je veux dire, bon, le Canadien se développe doucement. On voit qu'il s'en va dans la bonne direction. Samuel Montembeau arrive à maturité. Donc, toutes les cases sont là pour dire que probablement, il va être un influenceur important au niveau des gardiens de but du Québec.
Bon, ben on va observer ça avec intérêt. Ce sont des mots très bons pour Samuel Montembeau ce matin. Alors, merci de la discussion, François Allaire. Merci du temps passé ici ce matin et c'est un plaisir à chaque fois.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. François Allaire.